franceinter.fr.
Écoutez donc cette histoire étonnante où la vertu n'est pas récompensée. Le mal triomphe des âmes innocentes, mais le destin saura bien les venger. Gardez chez vous vos enfants et vos femmes, écoutez bien vous qui êtes à l'abri. Voici le temps des châtiments infâmes, dans le secret des mystères de
La marche de l'histoire, Jean Lebrun.
Au moment où ouvre au musée Carnavalet une exposition sur le peuple de la capitale, voici donc les mystères de Paris. Il sue le crime et dessine en creux sous la capitale officielle une ville fantastique. Du début de leur parution en feuilleton en juin 1842 jusqu'à ce que Jeanne Sue inscrive le mot fin en octobre 1843, ils connurent un succès inouï et ils restent comme une butte témoin de l'immense continent Atlantide disparu de la littérature populaire du 19e siècle, dont notre invité Jean-Yves Mollier, bonjour.
Bonjour.
Est un spécialiste. Il publie encore un livre sur la maison Talendier aux éditions Nouveau Monde, la maison Talendier qui s'est fondée sur le succès du feuilleton. On entendait Germaine Montero, adaptation radio des Mystères de Paris en 54. Il y a eu une demi-douzaine d'adaptations cinématographiques. Et puis l'adaptation télévisée. Ça y est, j'ai repéré d'où datait votre vocation en littérature populaire. 1961. Craven et Santelli à la télévision, et vous aviez...
J'avais 14 ans.
Et vous regardiez ça ?
Je regardais, non pas chez moi, mes parents n'avaient pas encore la télévision, ils étaient comme la plupart des Français de l'époque. J'ai donc regardé effectivement cette adaptation chez un ami qui lui avait la chance d'avoir la télévision, parce qu'à l'époque il y avait une seule chaîne, et la télévision ne se regardait pas de manière individuelle dans une chambre qui est la chambre de l'enfant, par exemple, ni même dans le salon de la salle à manger, mais se regarder collectivement.
De même que les Mystères de Paris sont le fruit d'une littérature contributive. Ils ont été, à certains égards, écrits collectivement. Mais avant de parler du feuilleton télé, dont on entendra beaucoup d'extraits, avant de parler du feuilleton presse, qu'est-ce qu'il y avait avant ? C'était la littérature de trottoir qui dominait la littérature populaire.
La littérature du trottoir, qui ne portait pas encore ce nom, puisqu'elle prendra ce nom à la fin du XIXe siècle, c'était une littérature de complainte. De complainte, c'est-à-dire des ballades, un petit peu comme dans certaines pièces de Shakespeare, des ballades que l'on faisait en l'honneur de Mandrin, en l'honneur des bandits. C'était des complaintes. Et d'ailleurs...
Accompagnement à l'orme de barbarie, comme là.
Exactement,
comme
exactement, puisque le timbre, au fond, de ces complaintes est interchangeable. On le retrouve. Alors, au fond, la plupart des Parisiens, et a fortiori les habitants des grandes villes, aimaient effectivement entendre ces récits, peut-être pour conjurer le sort. Il y avait une sorte de catharsis. Si on va voir, au fond, Mandrin qui est roué ou qui est écartelé, d'une certaine manière, on se prémunit contre la tentation ou la tentative que ce soit soi-même qui soit un jour exécuté.
La complainte, la partition pour orgue de barbarie qu'on vend sur le trottoir, ça continuera, parce que les médias se chevauchent et ne se succèdent pas avec des solutions de continuité. Ça continuera quand apparaît le feuilleton presse. Le feuilleton presse, alors ?
Alors le feuilleton presse, lui, il a une autre histoire. Au fond, tout démarre en 1827 avec une réforme postale. Les journaux ne sont pas vendus dans la rue à l'époque, ils sont vendus par abonnement et ils vont coûter extrêmement cher, autour de 80 francs l'abonnement par an à partir de 1828. Tous les patrons de presse cherchent des formules pour à la fois augmenter la taille du journal, c'est la première réponse, et puis deuxièmement, pour améliorer le contenu. Ils vont trouver essentiellement deux méthodes. La première, faire appel à la publicité pour payer une partie du journal. En règle générale, un journal, un quotidien à quatre pages, toute la quatrième page sera réservée à la publicité. Deuxième méthode, demander aux romanciers de leur proposer les romans qui étaient lus essentiellement à l'époque, non pas comme aujourd'hui, on va dans les librairies, on va acheter un roman. Pas du tout. On allait dans les cabinets de lecture, on empruntait un, deux ou trois tomes pour les lire chez soi.
Et parmi les romanciers qui profitent de cette nouvelle ressource, le jeune Eugène Sue, qui a 40 ans à peine au moment des Mystères de Paris, et dont Jean-Louis Bory, dans un livre Sue, dandy mais socialiste, a restitué les débuts.
Dans l'ombre colossale des Mystères de Paris, qui ont beaucoup influencé Hugo, par exemple, il y a tout un Eugène Sue qui a écrit des romans mondains, des romans dans le genre insolent, tels que Kernok le pirate ou Atargul, où il y avait ce personnage que les romantiques aimaient beaucoup, qui était le pirate au gant beurre frais, qui se promenait dans les salons en ricanant, naturellement d'une façon très sardonique. Il y a des personnages qui vont devenir plus tard Fantômas et Judex et Arsène Lupin, etc. C'est la racine, si vous voulez, du héros à la fois noir, une espèce d'humour noir, follement séduisant et qui est d'une extrême insolence.
Ses maîtres sont Fenimore Cooper, Byron.
Oui, absolument. Essentiellement, le roman de la prairie, c'est-à-dire le roman américain, c'est le démarrage de ce qu'on appellera plus tard le roman western. Mais avec Eugène Sue, on a affaire à un romancier maritime, c'est-à-dire quelqu'un qui va imaginer des aventures qui se déroulent sur les mers, un peu comme le Hugo tardif. Donc c'est en ce sens qu'il y a effectivement une sorte de deux personnages ou un dédoublement. Il y a le Eugène Sue d'avant les Mystères de Paris et le Eugène Sue d'à partir des Mystères de Paris.
Oui, ben enfin à Paris, on peut trouver des corsaires, des aventuriers, des flibustiers, des négriers.
Oui, on peut dire
on transpose.
On peut dire que les flibustiers, les bandits sont à l'intérieur de nos villes. D'ailleurs, l'avant-propos des Mystères de Paris va reprendre la formule. Eugène Sue l'a emprunté au préfet de la Seine qui, en 1830, mettait en garde le pouvoir en disant, au fond, les Cosaques ne sont pas très loin en Europe. Ils sont véritablement, ils campent dans nos villes. Et un journaliste, en 1831, Saint-Marc de Girardin, reprendra la formule. C'est la naissance des classes dangereuses. On a peur du peuple, on a peur des ouvriers.
Les barbares sont dans Paris. Alors, vous parlez de l'avant-propos. Technique éprouvée du feuilleton, recommandée par un autre auteur important, Alexandre Dumas. Il faut, dans la scène d'exposition, un paysage bien caractérisé, des personnages bien typés et un dialogue bien vivant.
Le vent s'engouffrait violemment dans les ruelles de ce lugubre quartier. La lueur blafarde des lanternes se reflétait dans le ruisseau noirâtre qui coulait au milieu des pavés fangeux. La nuit était profonde. L'eau tombait à torrents. De fortes rafales de vent et de pluie fouettaient les murailles. 10 heures sonnaient dans le lointain à l'horloge du palais de justice. Des femmes, embusquées sous des porches voûtés comme des cavernes, chantaient à mi-voix quelques refrains populaires.
Le Chourineur !
Le Chourineur !
Le Chourineur !
Dépine-toi, le Chourineur !
Tiens ! C'est toi, la Goualeuse. Tu peux avoir ?
Je n'ai pas d'argent.
L'ogresse du lapin blanc te fera crédit sur ta bonne mine.
Je lui dois déjà les vêtements que je porte.
Aïe, vous me faites mal!
Eh ben, c'est pour t'apprendre à raisonner avec les hommes.
Sale brute! Laisse-moi!
Ah, cette fois, je te tiens, ma belle, hein? Et je vais te faire danser,
laisse-la. Moi! Laisse-la!
Ou c'est toi qui vas danser?
Celui qui s'exprime, là, c'est Rodolphe. Le corps mince, les mains blanches, mais la musculature de fer, la voix affirmée. On parlera de lui tout à l'heure, qui est un héros, qui est plus qu'un simple humain. Mais les autres, le Chourineur, qui va jouer un rôle important, et puis la jeune fille, la Goualeuse, qui est en fait Fleur de Marie.
On a au fond tous les personnages de l'ancien mélodrame. Certes, on est dans le monde du roman, on n'est pas dans le monde du théâtre, mais c'est exactement la même chose. On a d'un côté les forces du mal, de l'autre les forces du bien, et puis on a la victime. La victime qui sera presque violée, mais jamais tout à fait violée, parce que quand même on sait se tenir lorsqu'on met un spectacle en scène ou lorsqu'on écrit un roman. Mais en même temps, il faut que le spectateur ou le lecteur, dans le cas des Mystères de Paris, ait effectivement peur, c'est-à-dire aille au bout, en quelque sorte, de sa catharsis. Donc, la Goualeuse, dont on découvrira qu'elle est en même temps Fleur de Marie, elle est un personnage tout à fait extraordinaire. Son nom évoque déjà, d'ailleurs, évidemment, la mère du Christ. Mais on en reparlera à propos de Rodolphe.
Le lieu, c'est un tapis franc de l'île de la Cité.
Alors, un tapis franc, c'est un cabaret, c'est un bistrot, c'est tout ce que vous pouvez imaginer, dans lequel les Parisiens les plus pauvres viennent effectivement boire la pire des eaux de vie, le pire des pinards que l'on puisse servir dans un estaminet digne de ce nom. On y mangera la nourriture la plus infecte que l'on puisse trouver dans Paris, parce qu'à l'époque, les pauvres se nourrissent avec les restes, non pas des riches, mais simplement de ceux qui arrivent à faire un repas normal. Et il y a tout un système que l'on voit bien se mettre en place dans le Mystère de Paris, où effectivement les restes, les reliefs de la table sont revendus. Et le fameux arlequin, que va consommer, que va manger le Chourineur grâce au repas payé par Rodolphe en présence de Fleur de Marie, c'est précisément un mélange de restes de viande, de poisson et de tout ce qu'on peut imaginer.
Parce qu'ils vont se bagarrer, le Chourineur et Rodolphe, et puis ils vont se réconcilier et donc se retrouver dans ce bouge qui est dans l'île de la Cité. Alors on est dans le Paris d'avant Haussmann, dont personne à l'époque ne pense qu'il pourrait être rasé et qui est difficilement imaginable aujourd'hui.
Oui, il sera rasé à la fin des années 1850, pour donner naissance à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Les rues vont être effectivement considérablement élargies. On fera partir plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il ne faut jamais oublier que c'est aussi dans ce quartier que Victor Hugo a situé la Cour des Miracles. Dans son roman de 1833, on est à quelques années, à 10 ans près, avec les Mystères de Paris, il y a situé effectivement la pègre du Moyen-Âge. Mais la pègre du Moyen-Âge dont il parle, c'est un petit peu celle du début du 19e siècle que met en scène, que peint véritablement Eugène Sue.
Alors ce Paris de la Cité, qui a poussé au hasard le fil de la Seine, le Pont Neuf ou... Fleur de Marie est obligée par la méchante chouette de vendre des sucres d'orge. Et puis au fil de la Seine, plus loin, l'île du Ravageur.
Oui, on a tout un Paris de la misère, je dirais. Tout un Paris populaire dont on a du mal aujourd'hui à imaginer qu'il ait pu exister quand on regarde simplement le prix du mètre carré. Mais avant qu'il y ait spéculation, avant que l'on chasse les ouvriers, les pauvres, les immigrés vers les banlieues, il y avait bien dans le Paris de ma jeunesse, effectivement, des quartiers qui demeuraient encore, des quartiers dans lesquels on trouvait, par exemple, la population algérienne. Le Paris du 19e siècle, c'est encore pire d'une certaine manière, ou encore mieux si l'on préfère. C'est-à-dire qu'il y a un véritable mélange. Dans l'immeuble d'avant Haussmann, le riche peut habiter encore au premier ou au deuxième étage, et le pauvre au cinquième et au sixième.
Attendez, donc, dans l'immeuble de la rue du Temple, où se passent les rencontres de la plupart des personnages, il n'y a que 4 étages. Attendez, c'est un immeuble où se tiennent au rez-de-chaussée Alfred et Anastasie.
Absolument.
Et leur vrai nom, c'est...
Alors là, on est dans le roman de Balzac, Le Père Goriot.
On est toujours dans Les Mystères de Paris, Les Pipelet.
Ah oui, pardon.
Alfred et Anastasie Pipelet.
Oui. On est en face des concierges, effectivement, qui portent leur nom devenu un surnom, Les Pipelet. Dans l'immeuble, donc à 4 étages, on va effectivement de la richesse vers la pauvreté en gravissant les étages. Ça avait un immense avantage. Les classes sociales, comme on disait encore à l'époque, se rencontraient, se côtoyaient. Même si elles ne se parlaient pas, elles savaient que les unes et les autres existaient. À un certain moment, lorsqu'elles quitteront le centre de la ville pour aller vers la périphérie, les unes pourront oublier les autres.
Pipelet, c'est un nom qu'a inventé Eugène Sue. Alors, il a inventé beaucoup de mots d'argot aussi, qui étaient seulement à lui au départ, et puis qui ensuite sont entrés dans le langage populaire parisien.
Il y a les deux phénomènes, un petit peu comme Balzac dans « Splendeur et misère des courtisanes », pour mettre en scène Vautrin et le monde des bagnards. Eugène Sue s'est documenté. Il a donc lu des dictionnaires d'argot. Il a lu un certain nombre d'ouvrages. Balzac fera pareil. Il a utilisé cette langue qui était censée être celle des galériens, puis des bagnards, puis des prisons, pour l'introduire dans son roman. Mais avec sa faculté, effectivement, d'imagination, sa faculté de création langagière, même dans le roman populaire, il a inventé des noms qui ensuite, parce qu'il y a eu osmose entre le lecteur et les personnages, sont devenus de véritables surnoms. Désormais, effectivement, une concierge, c'est une Madame Pipelet, ou plus exactement, une Pipelette.
Pomone, Fortunée, Anastasie Pipelet réside rive droite, rue du Temple, avec son mari Alfred, et ils boivent toujours, parce qu'ils s'aiment beaucoup, dans le même verre.
Alors là, on est effectivement au boulevard du Temple, c'est-à-dire sur le boulevard du crime. Là où il y avait, il faut l'imaginer, tous les théâtres dans lesquels on représentait les fameux mélodrames dans lesquels il y avait du sang tous les soirs sur la scène.
Toujours rive droite, il n'est pas recommandé d'aller boire dans un bouge dissimulé dans les profondeurs du cours La Reine, chez Bras Rouge, Claude Pieplu ici, dans la version Santélie. C'est un endroit que fréquente la chouette, la regrettée Denise Jans dans la version Santélie. Et à ses risques et périls, Rodolphe, notre héros énigmatique.
Attention, l'escalier est glissant.
Où sommes-nous?
Ah, le cœur saignant. Vous connaissez pas l'hôtel en plein Champs-Élysées. Vous avez marché dessus plus de 100 fois sans le voir. Faut savoir regarder à ses pieds. Le plus discret des cabarets parisiens. Alors, ici, on va se rafraîchir les idées, t'allais regarder. Tu peux même ouvrir ton parapluie, Finette.
Dame, la Seine coule contre le mur et avec le temps qui
fait... Alors, Bras Rouge, ça pense toujours. Ah, une vraie tête, l'ami Bras Rouge. Hein. Un vrai coffre-fort, vous pouvez pas savoir tout ce qu'il y cache.
Moi, j'ai rien à cacher.
Toujours chatouilleux, hein, bravo.
Chatouilleux, si on me gratte, oui.
Et ton trésor? Dis-nous, qui est ton trésor?
Mon trésor? Quel trésor? J'ai pas de trésor, c'est des calomnies.
Du calme, Branche, du calme. Tu vois bien que la chouette veut parler de ton fils.
C'est-il pas un trésor, ton tortillard?
La chouette a toujours le mot pour rire.
Où donc il est, cet amour d'enfant?
Dans la cave, à faire des misères aux rats.
Cruel Paris, aux marmites infernales, bouillant le pire ainsi que le meilleur. Le jour, la nuit, c'est la même bacchanale. Le vice est maître et la vertu se meurt. Toi qui écoutes, dissipe tes alarmes, car la pureté pour Dieu n'a pas de prix. De l'innocent, il vengera les larmes avant la fin des mystères de Paris.
D'après l'œuvre célèbre d'Eugène Sue, Les mystères de Paris.
Et avec Jean-Yves Mollier. Alors, il y a le bien, il y a le mal, l'innocence et la pureté. Le mal, on entend les finettes, la chouette, diligence, c'est elle qui l'incarne, le maître d'école aussi.
Le maître d'école qui recevra la punition divine puisqu'il aura les yeux percés à la fin du roman.
Tout à l'heure. Oh, est-ce que d'ailleurs c'est à la fin vraiment du roman? Le notaire, Ferrand, qui vit vertueusement et pauvrement, recevant au coin de sa cheminée le curé, mais qui?
Oui, on est dans un monde, au fond, extrêmement simple, où d'un côté, il y a les forces du bien, de l'autre côté, il y a les forces du mal. Pour que les lecteurs d'un roman de l'époque puissent véritablement s'emparer du sujet, il faut effectivement être dans une sorte de monde religieux.
Mais les lecteurs, ils prennent parti, ils contribuent.
Alors, les lecteurs prennent parti, ça, c'est un phénomène nouveau, en effet. Avec la publication des Mystères de Paris, on assiste à l'amplification d'un phénomène qui avait commencé un petit peu avant avec Dumas et Balzac. Les lecteurs se mettent à écrire aux romanciers. Ils demandent éventuellement de modifier la fin. Ils s'énervent lorsqu'il y a une trop grande interruption, quand il y a, par exemple, un mois sans feuilleton. Ils interviennent, ils demandent des modifications, ils veulent, en quelque sorte, intervenir. Mais j'ajouterais, ça veut dire qu'ils prennent en quelque sorte ce qui se passe dans le monde de la fiction pour la réalité. Ils ont l'impression que Rodolphe, c'est Dieu le Père ou Dieu le Fils, qu'il est là sur la terre pour rétablir l'ordre,
alors,
l'ordre
Rodolphe,
divin.
Parlons-en. C'est Dieu fait homme, vous dites ça comme ça. Descendu sous les traits d'un ouvrier en éventail, que le Chourineur, à sa première rencontre, découvre vêtu d'une blouse. Mais en réalité...
Où vas-tu, Chourineur? Tu cherches quelqu'un?
Un peintre en éventail que je prenais pour un copain. Je crois bien que je l'ai perdu.
Tu ne l'as pas perdu, Chourineur. Ce n'est qu'une métamorphose.
Eh ben, quand je raconterai ça, j'ai mangé un arlequin avec...
Avec le grand-duc héritier de Gerolstein.
Oh, bon Dieu!
Ne disais-tu pas précisément que dans ce plat, il y a à manger pour tout le monde?
Oui, monseigneur.
Pour les princes et pour les gueux, n'est-ce pas?
Oui.
Eh bien, vois-tu, je suis l'un ou l'autre, selon les heures.
Version Santelli, c'est Marcel Bozzuffi qui interprète le Chourineur et Jacques d'Acmin, Rodolphe. Alors vous disiez que selon les heures, il était le fils ou bien le père, le fils qui descend sur terre,
oui,
ou le père.
Absolument. Il est le père lorsqu'il rétablit la justice distributive, mais il est aussi le fils lorsqu'il est extrêmement humain. Quand il crève les yeux, effectivement, de l'un des héros, d'un héros du mal, il ne l'abandonne pas complètement. Il lui laisse en quelque sorte la possibilité d'un rachat. Eugène Sue joue admirablement sur tous ses ressorts. Il y a Dieu, le Père, le Fils, il y a la Vierge Marie. Au fond, tous les ingrédients de la Bible sont là pour laisser une chance aux humains de s'en sortir.
Mais c'est le Père aussi parce que, en fait, on va s'en apercevoir peu à peu, Fleur de Marie, c'est la fille de Rodolphe.
Bien sûr, c'est la fille de Rodolphe. Mais ça, il faut peut-être laisser nos auditeurs avoir envie de se replonger dans le roman pour redécouvrir effectivement tous les mystères, pas seulement de Paris, mais de la famille.
Oui, parce que les mystères s'imbriquent, s'enchevêtrent pour n'en faire qu'un.
Oui, bien sûr, on a une sorte de grand roman qui est celui de toute l'humanité. Ce n'est pas pour rien si d'ailleurs Eugène Sue, plus tard, écrira un roman qui s'appellera Le Juif errant. On est bien dans l'appropriation d'un grand roman, d'une certaine manière, qui est celui de la Bible, mais qui est remis à la portée du public du XIXe siècle en utilisant les formules du théâtre, les formules du mélodrame et les formules du roman feuilleton qui maintenant a une dizaine d'années d'existence.
Oui, mais on parle du christianisme. En même temps, Sue, à mesure qu'il écrit, sous la pression d'un certain nombre de contributeurs, par exemple les socialistes utopistes fourriéristes qui le soutiennent dès la parution du premier épisode, il devient de plus en plus humanitaire, voire socialiste.
Exactement. On peut dater pratiquement de février 1843, à peu près à mi-chemin dans la publication, le véritable tournant dans la vie de Eugène Sue, à la fois en tant que romancier, car les mystères de Paris vont prendre une tonalité non plus simplement humanitaire ou philosophique, mais de plus en plus social, voire socialiste, et le même homme, le romancier lui-même, qui, en 1850, à la demande effectivement des forces socialistes de Paris, acceptera d'être candidat à une élection partielle comme représentant du peuple, l'équivalent des députés, et il sera élu représentant du peuple. Le mot est fort. J'aurais même envie de dire...
Représentant du peuple, d'ailleurs, là, je reviens à l'époque où il écrivait Les Mystères de Paris, il sort de son bureau... Il bute sur le cadavre d'un ouvrier dans son antichambre. L'ouvrier s'est suicidé chez lui en disant « Où mourir, sinon sous le toit de celui qui nous aime et nous défend ?»
Et on a des centaines de lettres, effectivement, qui montrent à quel point le peuple de Paris a adhéré véritablement au système qui est mis en scène par Eugène Sue. On voit des ouvriers lui écrire « Ils sont heureux qu'enfin quelqu'un dénonce leurs conditions de travail qui sont abominables ». On voit des ouvriers qui lui demandent d'aller encore plus loin, de proposer des réformes. On voit d'autres lecteurs qui pensent que véritablement, à la fin du roman, il y aura une sorte de programme électoral.
Alors, vous êtes quand même gonflé, Jean-Yves Mollier, quand vous me dites « Ne dévoilez pas la fin des Mystères de Paris » quand vous-même avez déjà suggéré à deux reprises cet épisode qui n'est pas du tout la fin, qui est seulement le chapitre 21 et l'achèvement de la première partie.
La
après,
fin de la première partie.
Il y en a beaucoup d'autres. Rodolphe, face aux méchants, le maître d'école, et vient le temps de la punition.
Qu'est-ce qu'on fait ici ?
Un tribunal. Introduisez le maître d'école.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Vous appelez Anselme Duresnel.
C'est faux !
Évadie Lubin de Rochefort, condamné pour faux, pour vol et pour meurtre.
Ce n'est pas vrai, qu'on me le prouve !
Je le prouve. Nous étions ensemble à Rochefort.
Qui parle ?
Le Chourineur.
Ah, tu es là aussi, toi, Vermine, hein ?
Oui, il est là. Parce qu'il a eu la chance d'échapper à votre couteau cette nuit.
Et de justesse. Ah, attends un peu que je te tienne dans cette main.
Comme les autres, n'est-ce pas ? Comme le marchand de bœufs de Poissy ? Comme le rentier de la rue du Roule ?
C'est faux !
Vous n'avez pas à répondre. Nous savons tout. Chacun de vos gestes, chacune de vos victimes, à l'énoncé de chacun de vos crimes, une voix s'élèvera dans cette pièce pour crier « C'est lui, c'est le coupable !»
Mais vous n'avez pas le droit, il y a des lois, il y a la justice.
La justice, laquelle veux-tu ? Celle de Dieu ou celle des hommes ?
Qu'est-ce que c'est que cet homme ? Qu'est-ce que je lui ai fait ?
Qui je suis ? Votre juge. Ce bandeau ôté, vous saurez ce que ce mot signifie.
Vous ne me faites pas peur, allez ! Je vous attends, même ficelé !
Ôtez-lui son bandeau.
Qu'est-ce que c'est ? Vous avez éteint les lumières ? Vous voulez me torturer dans l'obscurité ?
Docteur David.
Vous êtes aveugle.
Mais c'est pas vrai !
Le docteur David, est-ce que vous l'avez dit, a aveuglé le maître d'école ? Et le docteur David, c'est un docteur noir. Et, je cite Eugène Sue, il est pâle comme le sont les nègres.
On est bien dans une atmosphère absolument manichéenne. D'un côté le bien, de l'autre le mal. D'un côté le blanc, de l'autre le noir. On est aussi dans un monde, je ne cesse de le redire, qui est celui du mélodrame. On est à une époque où le peuple de Paris va assister aux pièces de théâtre parce qu'il y a un système de revente des contre-marques, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité financière pour acheter les billets ou les places pour aller assister au mélodrame ou au vaudeville, mais à la mi-temps, en quelque sorte, parce qu'à l'époque, on ne joue pas une pièce, on en joue trois ou quatre, eh bien, on peut acheter pour un prix extrêmement bas des places. Donc, on a affaire à des lecteurs, à des spectateurs qui vivent effectivement dans un monde où les forces s'opposent en permanence, d'un côté le bien, de l'autre le mal.
1843, octobre, Sue met le mot fin. Aussitôt après, il y a une adaptation théâtrale, le mélodrame. Dites-moi, il ne fait pas confiance à la justice bourgeoise, Rodolphe ? C'est aussi pour ça qu'il peut-être il plaît aux peuple de Paris.
Oui, bien sûr.
Il rend lui-même la justice.
Il rend lui-même la justice. Un petit peu aussi, quand même, comme Robin des Bois, pour la littérature britannique, ou comme Mandrin, qui distribuait une partie de ses larcins. On est là dans un monde qui est à la fois, je l'ai dit, le monde de la religion, mais en même temps, celui aussi d'une certaine réalité où, en quelque sorte, puisque le monde va mal, il faut bien qu'il y ait des redresseurs de tort.
Sue enchaîne avec le juif errant, où il manifeste plus d'anticléricalisme. L'ennemi, ce n'est pas le juif, c'est le jésuite. Il y a une jésuitophobie qui obéit souvent au même registre que l'antisémitisme, mais c'est une parenthèse. Ce n'est pas une parenthèse que celle de son élection en 1850, vous l'évoquiez, mais en 1851, avec le coup d'État, Sue se retrouve dans le camp des perdants et il s'exile.
Il s'exile, comme Victor Hugo, comme bon nombre, effectivement, d'opposants à cette violation de la Constitution, à ce que Victor Hugo appellera le crime du 2 décembre. Lui, Eugène Sue, va partir en Savoie, où il mourra en 1857.
Il meurt la même année que Vidocq.
Exactement.
Et que Béranger, à Annecy.
Exactement. Et dans les deux cas, le peuple de Paris les pleurera. Simplement, Eugène Sue ne pourra pas être enterré, à la différence de Béranger.
Dans la capitale.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le Eugène Sue des années 1850-1857 a complètement changé. Il a été en quelque sorte tiré vers le socialisme par ceux qui l'ont élu représentant du peuple. Et c'est ça qui est intéressant. Et il faut rendre hommage au fond à Jean-Louis Borry qui, en deux termes, avait en quelque sorte donné un tableau complet d'Eugène Sue, le dandy socialiste.
Eugène Sue, il apparaît dans l'exposition du musée Carnavalet qui est consacrée au peuple de Paris, mais il apparaît aussi chez les éditeurs des époques suivantes de la littérature populaire. Vous publiez aux éditions Nouveau Monde un livre à quatre mains sur Talandier, qui avant d'être l'éditeur d'Historia était un éditeur de feuilletons.
Absolument.
Et qui avant d'être une maison conservatrice était une maison républicaine, et un des fondateurs se recommandait dessus.
Et on peut même dire que la maison Talandier, qui apparaît vers 1870, est l'héritière du roman feuilleton. Parce que le roman feuilleton lui-même a débouché en 1848 sur le roman à 4 sous, des épisodes ramassés en 16 pages. Là, ensuite, il y a eu dans les années 1855 les journaux romans. Et puis, eh bien, à partir des années 1870, on a eu affaire à des grandes maisons comme Talandier, Ferenczi, Rouff, qui ont repris les romans feuilletons. J'en citerai quelques-uns. Chaste et flétrie de Charles Mérouvel et Roger Lahonde de Jules Marie, tous les titres qu'on retrouvera effectivement chez Talandier.
Ah, il faut souvent le talent de gens venus de la bourgeoisie pour trouver des titres et écrire à la place du peuple. C'est l'inconvénient de la littérature populaire, c'est qu'elle
absolument
est rarement issue du peuple.
Exactement, si on avait cru autrefois que le peuple était l'auteur, en réalité il était le récepteur ou en tout cas le dédicataire.
Merci Jean-Yves Mollier.
La ville est morte depuis que tu es parti, mais la statue est toujours à la même... La statue.
Comme une statue.
Eh oui, comme une statue.
La statue.
Eugène Sue me regarde, je t'aime.
Eugène, comme le prénom.
Comme le prénom.
Ensuite.
Sue.
Comment?
Sue, Eugène Sue.
Sue.
Oui, mademoiselle, vous savez bien, les Misérables, les Trois Mousquetaires.
Ou plutôt, on a essayé de l'expliquer, les mystères de Paris, dont j'indique qu'une version théâtrale est donné par la troupe Scène 92. Et la dernière représentation, c'est samedi 22 octobre à Villebon-sur-Yvette, loin de l'île du Ravageur. L'émission était préparée par Meryl Moneghetti, Frédéric Martin, réalisée par Jacques Sigal avec Gilles Gaillard et Yann Bouillot.